Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. L'édition, pas d'édition sans imprimerie. Voici une promenade dans Lyon, capitale de l'imprimerie au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Lyon, capitale d'un certain humanisme, plaque tournante et d'échanges. Voici donc un documentaire signé Séverine Liattard, réalisé par Nathalie Trianda-Philides, avec Dominique Vary, professeur des universités à l'ENSIB, Yves Jocteur-Morosier, conservateur à la Bibliothèque de Lyon, Hélène Marchal, directrice du musée de l'imprimerie. Un documentaire proposé dans la Fabrique de l'Histoire le 3 janvier 2007.
Donc nous sommes à Lyon, au centre de Lyon, devant l'église Saint-Nizier, qui est située donc entre la place des Cordeliers et l'hôtel de ville. Avec vous, Yves Jocteur-Morosier, vous êtes conservateur à la Bibliothèque de Lyon, spécialiste des imprimés anciens. Avec vous, Dominique Vary, vous êtes professeur des universités à l'ENSIB, donc l'école qui forme les futurs bibliothécaires et conservateurs. Et vous, Alain Marchal, bonjour, vous êtes directeur du musée de l'imprimerie à Lyon. Et donc nous sommes avec vous pour évoquer le prestigieux passé de Lyon en tant que ville, voire capitale donc de l'imprimerie. Donc en effet, juste après l'invention de Gutenberg, Lyon devient rapidement la seconde ville française après Paris à accueillir l'imprimerie à la fin du XVe siècle. Une cité qui pourtant ne compte ni université, ni parlement, donc des institutions qui sont quand même demanderesses de textes, mais qui possède toutefois une élite judiciaire cultivée et qui surtout devient avec ses foires de commerce annuelles un lieu donc d'échange extrême. Et donc il semble que, on en rediscutera avec vous, que ce soit la vie économique qui a contribué quand même à l'essor de l'imprimerie à Lyon. Par sa position, elle s'impose un peu comme un relais entre l'Europe du Nord et le Sud. Et de ce fait également, Lyon va devenir un lieu d'épanouissement, on pourrait dire, de l'humanisme. Et donc, les professionnels du livre vont investir en particulier ce quartier où plus particulièrement le quartier de la rue Mercière, où vont cohabiter comme ça les marchands libraires, les marchands imprimeurs, les relieurs, les ouvriers du livre. Et contrairement aux idées reçues, ça nous développerons aussi cette problématique, la grande période de l'imprimerie à Lyon ne concerne pas seulement la Renaissance et le XVIe siècle, mais va bien au-delà, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, notamment parce que Lyon va devenir un haut lieu de la contrefaçon et va également accueillir les lumières et imprimer les livres, finalement, des encyclopédistes. Alors, si nous commençons donc notre émission ici, au pied de l'église Saint-Nizier, peut-être, Morosier, vous pourriez nous décrire un peu cette église.
La structure générale de l'église est celle d'une église gothique, puisqu'elle a été créée en 1304 par Louis de Villars, par l'archevêque de Lyon. Et donc l'essentiel est gothique, mais l'église, il a fallu 2 siècles pour la bâtir, et on a plaqué donc sur la façade un porche Renaissance assez célèbre à Lyon. C'est un des premiers éléments de l'architecture Renaissance italienne à Lyon. On a cru longtemps que ce porche était de Philibert de Lorme, et maintenant on sait qu'il est d'André Vallet, mais c'est un témoignage assez intéressant de l'italianisme à Lyon. La structure a été modifiée au XIXe siècle puisqu'on a rajouté une flèche néo-gothique et puis un pignon néo-gothique. Alors c'est une église importante parce que c'est l'église principale entre Rhône et Saône qui représente le pouvoir civil. C'est là que les consuls de Lyon étaient proclamés et ils rendaient hommage à Notre-Dame-des-Grâces, une statue qui est encore à l'intérieur de l'église. C'était l'intronisation officielle des consuls de Lyon.
Alors, si nous commençons notre balade radiophonique sur l'histoire de l'imprimerie à Lyon ici, c'est parce qu'en fait, il y a une plaque qui, à l'intérieur de l'église, donc rend hommage au premier imprimeur, Dominique Vary, premier imprimeur à Lyon, premier imprimeur important.
Pas précisément le premier imprimeur, il y a dans une des chapelles latérales gauche une plaque en partie cachée par un confessionnal aujourd'hui, en écriture gothique, qui rappelle le souvenir de la famille Buyer. C'est une plaque qui a vraisemblablement été posée là au XVIe siècle. Et famille Buyer dont les membres sont enterrés sous ces dalles quelque part. Et la famille Buyer a eu un membre important, Barthélemy, grand marchand lyonnais, marchand épicier, faisant du grand commerce international. Et c'est lui qui, à la fin de 1472, a fait venir le premier typographe à Lyon. Ce premier typographe, ce premier imprimeur, était un liégeois d'origine, Guillaume Koenig, dont le nom s'est très rapidement francisé en Guillaume Leroy.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, Dominique Vary, Yves-Jocteur Monrosier ou Alain Marchal, c'est qu'en fait, la caractéristique donc, des imprimeurs lyonnais, c'est que ce sont des imprimeurs étrangers pour la plupart.
Ou imprimeurs allemands. Les premiers sont les imprimeurs allemands, c'était logique, puisque l'imprimerie vient de Mayence, et puis de Bâle, toujours l'Allemagne, et puis d'Italie. Il y a toute une série d'imprimeurs italiens.
Mais on peut dire que si le premier imprimeur s'installe quelque part dans la rue Mercière en 1473 et publie, imprime un premier livre qui paraît en septembre 1473, le Compendium Brevet du cardinal Luther, il est très rapidement rejoint par d'autres confrères, puisque on estime à une douzaine le nombre d'imprimeurs vers 1485, c'est-à-dire à peu près 10 ans après l'arrivée de Leroy à Lyon.
Alors, on va essayer d'aller voir cette plaque, en tous les cas, en hommage à Barthélemy Buyer. Dominique Vary, nous sommes entrés dans l'église.
Donc nous sommes devant la chapelle Saint-François de Sales, qui est malheureusement fermée. Il y a une grille fermée à clé. Et sur le mur gauche, en partie cachée par un confessionnal, il y a cette plaque en écriture gothique qu'on ne peut pas déchiffrer depuis ici, mais qui est consacré au souvenir de la famille Buyer en son entier, qui vraisemblablement est enterrée quelque part sous nos pieds. D'autres imprimeurs libraires, d'ailleurs, sont enterrés dans cette église, dans les caveaux de cette église, puisque cette église était aussi la paroisse des imprimeurs. Elle est à quelques dizaines de mètres de la rue Mercière, qui était leur quartier général, si je puis dire.
Alors, pour mettre un petit peu en place donc ce contexte, des débuts de l'imprimerie, que publie-t-on fin du 15e, début du 16e siècle, comment un imprimeur, quelle est la démarche de l'imprimeur d'ailleurs, j'imagine qu'il faut qu'il aille chercher un manuscrit, et puis publie-t-on en latin, en français, dans quelle proportion ? Dominique Vary ou Yves-Jocteur Monrosier.
La particularité lyonnaise, et c'est Buyer qui va la donner dès le départ, ce sont des textes qu'on va publier pour les marchands. Donc la typologie des textes publiés va être très différente des textes parisiens. À Paris, c'est la Sorbonne qui régit tout le monde de l'imprimerie. Donc les textes sont faits pour les étudiants, pour les professeurs. À Lyon, il n'existe pas cette classe-là. Donc Buyer, dès le départ, va publier des ouvrages en français et des ouvrages pratiques. un des premiers imprimés de Buyer, c'est la chirurgie de Guy de Chauliac, ou le livre des merveilles du monde, donc des livres en français ou des livres pratiques. Et donc l'orientation va être donnée dès 1473-1475.
Alors ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que Lyon va être également très vite un centre d'innovation, puisque le premier livre illustré est imprimé à Lyon en 1476, si je ne m'abuse, et que la chirurgie de Guy de Chauliac est le premier livre dans lequel on est mis dans la même composition, à la fois le texte en caractère de plomb et des bois qui représentent les instruments chirurgicaux évoqués justement par l'auteur.
Et est-ce qu'on publie à Lyon des ouvrages religieux? Parce qu'on peut penser qu'après tout, tel est le rôle aussi des imprimeurs, imprimer évidemment des missels, des bréviaires et des bibles.
Alors oui, effectivement, une partie non négligeable quand même est faite de livres religieux. Ça va d'ailleurs devenir dans les siècles suivants la grande spécialité de Lyon, puisqu'on y imprimera toute la contre-réforme. Ça n'est pas une production majoritaire dans les débuts. Et autre caractéristique, si on imprime beaucoup en latin, assez rapidement, le pourcentage de livres en langue vernaculaire, en français, va devenir assez important.
Oui, et puis on va trouver aussi beaucoup d'ouvrages donc pratiques, concrets. On va trouver les romans de chevalerie assez vite, des ouvrages illustrés, des almanachs, toute une littérature populaire, si l'on peut dire, qu'on retrouvera beaucoup plus tard, transposée dans la Bibliothèque Bleue de Troyes. Toute une littérature vraiment populaire.
Bon, nous allons maintenant donc quitter l'église Saint-Nizier pour nous rendre donc dans ce fameux quartier de la rue Mercière, hein, rue des imprimeurs, rue du commerce aussi en général, où nous évoquerons peut-être à cette occasion donc la figure d'un autre imprimeur qui succède, on pourrait dire d'un point de vue générationnel, à Barthélemy Buyer, Sébastien Griff. Là, nous arrivons donc rue Mercière, hein, qui a été vraiment le quartier des imprimeurs. Nous sommes au numéro 50. Dominique Varry, donc, vous pouvez nous décrire un petit peu. On est dans un type d'habitat assez particulier.
Alors, nous sommes dans une rue qui est assez étroite, avec des immeubles assez hauts, de 5-6 étages. C'est donc dans cette rue qu'étaient implantées les boutiques. En rez-de-chaussée, il faut faire abstraction des restaurants d'aujourd'hui et en remplacer un certain nombre par des boutiques de libraires qui occupaient un ou deux arcs, peut-être trois arcs parfois. Donc les boutiques en rez-de-chaussée, les ateliers dans les étages, ce sont des maisons très étroites, vous voyez les entrées et les couloirs qui sont très très peu large, donc il faut imaginer la difficulté de faire monter des presses là-dedans, des presses qu'on installe parfois jusqu'au 5e ou au 6e étage. Il arrive même que dans certains immeubles on ait deux ateliers différents à deux étages différents. L'installation de ces ateliers pose un certain nombre de problèmes, d'abord de poids, parce que les presses sont lourdes. On peut estimer qu'un atelier moyen a 3 ou 4 presses, dont deux en activité continuelle. Ces presses vibrent, il faut souvent les mettre des poutrelles de bois pour les fixer au plafond, pour limiter les vibrations. Les derniers étages ou les greniers servent à sécher les papiers. Les cours abritent eh bien, des fontaines où on trempe les papiers avant impression, où également on lave les caractères qui ont été utilisés, qui ont été ancrés. Donc il faut s'imaginer des ateliers où on passe son temps à monter et à descendre les étages tout au long de la journée, des journées qui sont très longues, de 6 heures du matin en été jusqu'à près de 20 heures le soir. Alors ça, c'est la particularité de la rue Mercière. La rue Mercière n'est pas la seule à abriter des ateliers. Les rues, petites rues perpendiculaires, rue Tupin, rue Ferrandière, rue Saint-Dominique, etc., abritent également des ateliers. Il n'est pas rare non plus qu'un imprimeur-libraire soit implanté sur plusieurs bâtiments, c'est-à-dire qu'il a une boutique dans un bâtiment de la rue Mercière, un atelier dans un autre de la rue Tupin, éventuellement des magasins aussi ailleurs. Les magasins étant à entendre au sens de lieu où l'on entrepose les livres imprimés, puisque ceux-ci ne se débitent pas quand même très très rapidement. Il faut donc beaucoup de place pour les entreposer. On reparlera de ce problème avec les couvents qui sont très pratiques pour cela.
Et donc la corporation des gens du livre, hein, si on pouvait appeler ça comme ça, parce que là on parle surtout des imprimeurs, c'est vrai que c'est le sujet de notre émission.
Oui, je rappelle que l'évolution à long terme de l'imprimerie, c'est un mouvement de spécialisation progressive. On commence un peu avec des orchestres qui font tout. Au fur et à mesure que l'activité s'étend, on voit apparaître les spécialistes des fondeurs de caractères, par exemple, au XVIe siècle. Après, il y aurait des gens qui commencent à se spécialiser plus ou moins dans tel ou tel secteur. Donc il y a le livre au début, après il y a la presse périodique qui se greffe dessus. Pendant longtemps, tout le monde fabrique leurs encres. Certains vont fondre leurs propres caractères, d'autres vont les acheter ailleurs. Il y avait certainement des trafics ou des échanges. Dans un seul bâtiment, on trouve aussi des bâtiments où il y a 4 ou 5 imprimeurs, qui des raisons sociales. Donc il y avait certainement quelques échanges de caractères, parce que les caractères, c'est d'ornement, de bois gravé, qui confond pas mal l'identification de certains ouvrages dans les périodes un peu plus tardives. Mais bon, il y a toute une sorte d'écologie entre ces différents métiers. Ouais. Et petit à petit, les imprimeurs, les libraires vont se séparer. Et aussi, ça va devenir des éditeurs au 19e siècle. Donc, et au fur et à mesure que la société, les marchés deviennent de plus en plus... La société devient de plus en plus compliquée. Les marchés de plus en plus hiérarchisés, en quelque sorte, ou diversifiés. Tout ça se reflète dans l'évolution à long terme, dans les métiers graphiques, un mouvement qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Ces fameux imprimeurs forment souvent des futurs imprimeurs. Enfin, il y a une sorte de transmission. Ils ont des apprentis. Pour en arriver, on pourrait aussi parler des compagnons, des ouvriers.
Voilà. Dans les étages, il y a non seulement des ateliers d'imprimerie, il y a des ouvroirs de relieurs, il y a d'autres professions qui exercent aussi dans la rue. Et puis, il y a des logements, des compagnons, qui sont les ouvriers typographes, qui se subdivisent en deux catégories, les singes et les ours. Les singes étant ceux qui composent les textes. Dans ces ateliers, ils travaillent plutôt près des fenêtres pour être à la lumière. Les ours, eux, sont les pressiers. Ceux qui actionnent la presse, ils travaillent toujours à deux pour une presse. Alors le nom vient du fait qu'ils se dandinent toujours sur les pieds pour actionner la presse. Ce sont aussi généralement des gens plutôt corpulents, bien forts. Ils sont censés proférer des « en » pour se donner du courage en tirant sur le barreau, en actionnant le barreau. Donc ces gens-là habitent également ces étages les soupentes. Ces compagnons sont issus de l'apprentissage. Hein. Chacun de ces maîtres forme des apprentis. Alors la réglementation a limité le nombre des apprentis à deux, normalement, sous l'Ancien Régime. Il y a eu des périodes d'ailleurs où on n'a pas pris d'apprenti. Un apprenti entre chez un maître pour 4 ou 5 ans, selon les périodes. On signe un contrat, l'apprenti n'a pas le droit de quitter le maître avant d'avoir effectué son temps. C'est seulement à l'issue des 4 ou 5 années d'apprentissage qu'il devient compagnon. On parlait tout à l'heure des familles de ces imprimeurs. Très souvent, dans ces familles nombreuses, les aînés reprennent l'affaire familiale et les cadets sont cantonnés au rôle de compositeur ou de compagnon chez leurs frères.
Parce qu'il va y avoir un certain nombre de grèves quand même à Lyon, de ces fameux compagnons, ces ouvriers du livre, je pense dans les années 1539, Yves Joctor Monrosier.
Il y a d'abord, tout au long du XVIe siècle, même si c'est une époque de postérité, il y a quand même des révoltes populaires. Hein. Il y a la Grande Robaine en 1529, où les hôtels des riches bourgeois sont mis à sac. Et la plupart des bourgeois vont se réfugier à Saint-Jean. Et puis, effectivement, en 1539, c'est la grève des typographes. Donc, avec toutes les répercussions que ça peut avoir, la grève va durer presque 2 ans. Ça va être quand même quelque chose d'assez difficile.
Ces imprimeurs, je pensais en particulier à Sébastien Griff, hein, qui est un des grands imprimeurs lyonnais. Quelle relation a-t-il avec justement les humanistes? Quelle relation ces imprimeurs ont-ils avec, entre guillemets, les légendes, les lettrés, les penseurs, les gens cultivés? Et comment considèrent-ils le livre?
Alors, un certain nombre de ces grands imprimeurs sont incontestablement des intellectuels. C'est un fait indéniable.
Rabelais a par exemple travaillé chez Sébastien Griff, hein, je crois, c'est un fait.
Oui, oui, tout à fait. Il reste malgré tout des gens qui sont là pour faire tourner une entreprise. Ce sont des commerçants avant tout, et ça, il ne faut pas l'oublier, quelle que soit la période considérée, jusqu'à la fin, il s'agit de faire tourner une entreprise qui rapporte de l'argent. Vous savez qu'il y a aussi un certain nombre de polémiques aujourd'hui autour de certains des auteurs de cet humanisme lyonnais, puisqu'une collègue vient de publier un livre consacré à Louise Labbé, qui tente à démontrer que Louise Labbé n'a jamais été le poète.
Derrière elle, il y a tout un groupe d'humanistes collectifs et elle sert de figure emblématique, mais elle n'a pas le rôle qu'on lui a donné. Sébastien Griff est quand même en relation avec des gens comme Erasme. Erasme n'est pas venu, mais enfin, il est en correspondant. Et puis, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'Italiens, d'étrangers, on a vu l'autre jour, par exemple, qu'un Portugais, Gouveia, est venu au XVIe siècle voir Sébastien Griff et est resté 3 ans le temps de publier ses ouvrages. Donc, Sébastien Griff travaille avec un univers assez européen.
Donc, pour en arriver à la question de la réforme, qui est quand même une question importante, notamment pour l'imprimerie et pour la ville de Lyon, nombre d'imprimeurs, ça va ébranler d'abord le monde du livre et nombre d'imprimeurs lyonnais en tous les cas.
Ça fait une secousse sociale d'abord parce que en 1562, le baron des Adrères donc rentre dans Lyon. Il y a entre guillemets, une dictature réformée, c'est-à-dire que la réforme s'impose assez vigoureusement. Et puis ensuite, au contraire, en 1572, les Vêpres lyonnaises, c'est-à-dire la Saint-Barthélemy qui se déroule à Lyon, avec près d'un millier de morts. Donc ce coup social extrêmement important, avec les aléas justement protestants-catholiques. Donc on va le retrouver dans l'univers de l'imprimerie.
Ce qu'on peut ajouter, c'est que les milieux du livre ont penché du côté de la réforme au début de son implantation à Lyon, dans les années 1555. Les maîtres et les compagnons sont quasiment tous favorables aux idées nouvelles. Les choses commencent à changer dans les années 1560, à partir du moment où s'organise le consistoire de Lyon et où tombent les interdits. Et ça va entraîner un basculement, non pas des maîtres, mais du petit personnel. Les compagnons vont alors à nouveau basculer vers le catholicisme. Et ça va se terminer avec les Vêpres sanglantes dont on parlait tout à l'heure, qui entraînent un premier départ. Les de Tournes, par exemple,
oui, voilà, la grande famille de Tournes va partir en Suisse.
À Genève, on peut signaler qu'il y a une deuxième vague de départ très importante, qui, elle, sera consécutive à la révocation de l'édit de Nantes. Mais ça, c'est en 1685.
On a aussi Pierre de Vingles qui va partir donc de Lyon pour imprimer la première Bible à Genève. Hein. Donc, il y a un départ effectivement des élites de l'imprimerie. Hein.
Aussi pour imprimer le placard contre la messe.
Oui. Voilà, alors dont un exemplaire se trouve au musée de l'imprimerie, je crois.
Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que coup de balancier vers le catholicisme après le reflux du protestantisme, les imprimeurs libraires lyonnais vont pour une bonne part donner dans la Ligue. Il va y avoir un très important parti ligueur parmi eux tous ces gens-là vont à la fin du XVIe siècle et puis au XVIIe siècle imprimer toute la production de la contre-réforme.
Et notamment, nous allons nous diriger vers l'hôtel Cardon, voilà. Je crois, qui va se spécialiser, d'une certaine manière, dans justement la littérature de la contre-réforme. Juste avant d'arriver à l'hôtel des Cardons, c'est le passage des imprimeurs, vous me disiez, la Dominique Varry et Yves-Octeur Morosier, et il y a une plaque en hommage à Étienne Delay.
Étienne Delay donc, était originaire d'Orléans, il est venu s'installer donc à Lyon, et il a imprimé à peu près 80 ouvrages en très peu de temps. Il a installé des presses, il avait un privilège général pour tout ce qu'il produisait. Il devait montrer tout ce qu'il produisait au Sénéchal. Donc il avait une possibilité d'imprimer, et il a imprimé entre autres Rabelais. En 1542, il a fait une édition à l'insu de Rabelais de Pantagruel, avec un litige bien sûr, puisque Rabelais eut très peur, puisqu'on est à l'époque de la Réforme, et republier le Pantagruel, c'était quand même relativement délicat. Il a quitté Lyon et donc il avait un caractère relativement difficile. Il a quitté Lyon et vous savez qu'il est mort à Paris. Donc,
il y a eu un procès il a été brûlé avec ses livres.
Voilà. Place Maubert,
en
1546.
Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il avait travaillé comme correcteur chez Sébastien Griff avant de se lancer dans sa production personnelle.
En fait, Étienne Delay n'a pas passé par le cursus habituel apprenti-compagnon. C'est quelqu'un qui s'est lancé dans l'imprimerie de lui-même.
Donc là, nous sommes face à ce fameux hôtel Cardon. Bon, on avait commencé donc à en parler parce que nous parlions de la contre-réforme et que la maison Cardon va un peu se spécialiser dans ce genre, enfin, entre guillemets, ce genre de publication. Et de ce fait, nous allons en reparler. Elle va aussi ouvrir un marché, peut-être, un marché du livre avec notamment l'Espagne. Dominique Vary.
Alors, la maison Cardon est peut-être emblématique d'un certain nombre de choses caractéristiques du premier XVIIe siècle, justement. Cardon n'est pas le seul, mais Cardon, les deux frères Cardon, Horace et Jacques, vont être deux grands imprimeurs de la contre-réforme. Une partie de leur production va d'ailleurs partir vers l'Espagne, et une partie de cette production, via l'Espagne, est destinée à l'Amérique latine, d'une part, et puis aussi aux Indes orientales, donc vers l'extrême-orient.
Donc un commerce qui vraiment
c'est un commerce international, tout à fait, et c'est une des caractéristiques de Lyon durant tout l'Ancien Régime.
Et donc face à cet hôtel Cardon, dont une famille qui s'épanouit au XVIIe siècle, il y a donc ce qu'on appelle la maison Duplain, haute grande dynastie d'imprimeurs lyonnais, qui n'a pas tout à fait le même parcours que les Cardons, et qui plutôt se situe au XVIIIe siècle, Dominique Vary ou Yves-Joctor Morosier, enfin une grande famille. Hein. Le père, donc Marcelin, s'installe à Lyon, je crois, vers 1700.
En fait, il y a trois générations avec des statuts différents. Le premier, c'est l'imprimeur traditionnel, et puis la génération suivante, il y a deux garçons, chacun prend son orientation. Il me semble qu'il y a Benoît et Pierre, chacun prend son orientation. Il se spécialise déjà, Benoît se spécialise dans l'antiquariat. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que certains libraires faisaient donc de l'antiquariat. Ils vendaient donc des livres d'occasion ou dans des ventes aux enchères, ils vendaient des livres. Et donc, ça va être l'activité de Benoît qui va faire donc des catalogues relativement importants qui restent de nos jours. Et puis, la génération suivante va prendre... elle va suivre un peu son temps, c'est-à-dire que... un dément va se lancer dans l'aventure de l'encyclopédie et va avoir une réputation plus que douteuse, puisqu'il va, escroquer, si on peut dire, les gens qui vont travailler avec lui. Il doit plus de 150 000 livres, mais ça ne l'empêche pas de faire fortune, c'est-à-dire l'argent, d'une certaine manière mal acquis, va lui permettre donc de vivre et d'acheter une charge anoblissante de trésorier, et donc de vivre à la fin de sa vie avec une particule.
Donc il publie l'encyclopédie, mais pour se faire de l'argent. Voilà.
Alors, il est associé avec la Société typographique de Neuchâtel à partir des années 1770 et avec Charles-Joseph Pancouc, le grand libraire parisien qui monte. Et puis, donc, il achète en 1779 une charge de maître d'hôtel du roi. Il devient monsieur Duplain de Sainte-Albine. Il va faire dans l'agiotage. Il se trouve à Paris au début de la Révolution avec son cousin, Pierre-Jacques, qui, lui, est le fils de l'autre frère. Pierre-Jacques a commencé une carrière de libraire à Lyon, a été déchu de son titre de libraire en 1772 pour avoir commercé du livre prohibé. Donc il a fui en Suisse. On le retrouve à Saint-Pétersbourg pendant quelques mois, où il est bibliothécaire du corps des cadets nobles. Et puis il revient s'installer à Paris dans les années 84-85. Et donc on peut dire qu'à la veille de la Révolution, les deux cousins sont à Paris. Joseph va publier des journaux plutôt monarchiste. Pierre-Jacques, lui, va verser dans le sens inverse. Pierre-Jacques est connu comme étant un des septembriseurs, un des organisateurs des massacres de septembre, imprimeur de Robespierre et d'autres grands personnages. Il va tirer une première fois son cousin Joseph des griffes de la justice révolutionnaire. Il va échouer une deuxième fois. Joseph est guillotiné le 21 mai Sidoran II, c'est-à-dire, je n'ai plus la date, là, le 9 juillet 94, 18 jours avant Robespierre. Et alors, Bon, les choses se terminent de la façon suivante. Pierre-Jacques va élever les enfants de Joseph. Et Pierre-Jacques va mourir en 1820, pas du tout repenti, puisque nous le retrouvons dans les années 1815, poursuivi dans un complot anti-monarchiste pour le retour de Bonaparte, et donc contre la Restauration, à 75 ans.
Et il meurt dans la misère, complète.
Donc là, maintenant, nous allons nous rendre place des Jacobins. Donc, justement, pour un petit peu reparler des imprimeurs et des philosophes des Lumières, et puis surtout, donc, de la contrefaçon à Lyon.
À Lyon, livrons-nous du vin d'Espagne en France. Il n'est pas bon dessus les lieux. Ici, nous le buvons avec tant d'assurance qu'on ne boit le nectar à la table des dieux. Ne perdons point le temps à dire tant que les masses. Laissons boire Gaston.
Donc voilà, nous arrivons place des Jacobins, qui est une assez grande place avec une fontaine. Donc pour aborder cette question de la contrefaçon à Lyon, mais peut-être pourrait-on préciser finalement qu'il y a contrefaçon aussi parce que le cadre législatif de l'imprimerie va nettement se restreindre, enfin tout du moins être assez dur, justement à la suite des guerres de religion. C'est-à-dire le livre va être de plus en plus contrôlé par la royauté, par l'État, par l'État absolutiste en l'occurrence Dominique Varry.
On peut même dire avant, puisque la censure apparaît quasiment 25 ans après la découverte de Gutenberg, et qu'elle est à cette époque-là inventée entre guillemets par l'Église catholique apostolique et romaine. Ceci étant dit, les pouvoirs politiques vont très vite se rendre compte que le livre est quelque chose de potentiellement dangereux et vont, par toutes sortes de mesures, essayer de surveiller ces métiers. Alors, ça passe par toutes sortes de mesures, la limitation du nombre des professionnels, par exemple à Lyon, le nombre de libraires va être limité à 20, le nombre d'imprimeurs limité à 12. C'est à ça qu'on veut arriver à la fin de l'Ancien Régime. Et c'est une décision prise depuis le règne de Louis XIV. Donc il faut du temps pour que ça entre dans les mœurs, mais c'est une des nombreuses mesures de surveillance. Le dépôt légal instauré par François Ier en 1537 est certes à visée patrimoniale, mais c'est aussi une façon de surveiller ce qui se publie.
Alors, et donc il y a quand même le fameux obtention de ce privilège qui va mettre un petit peu en compétition, tout du moins en conflit, les libraires parisiens avec les libraires lyonnais, les libraires imprimeurs lyonnais. Et c'est un peu de cette manière-là qu'ils vont justifier aussi de faire de la contrefaçon, c'est-à-dire pour contourner la loi, pour pouvoir travailler, on va ne pas demander l'autorisation.
L'illégalité. Alors le privilège est quelque chose qui apparaît en Allemagne et en Italie, qui est introduit en France dans les années 1512. C'est une grâce que fait le souverain à un particulier imprimeur en lui conférant le monopole d'impression pour un temps qui a varié, disons en moyenne 10 ans, d'avoir le monopole d'impression d'un titre. À partir de ce moment-là, tout autre imprimeur qui imprime ce titre tombe dans l'illégalité et se livre au délit de contrefaçon. Alors on va très vite arriver au fait que les privilèges vont d'une certaine manière être réservés, ou en tout cas que les imprimeurs libraires parisiens bien placés, bien en cours, connaissant du monde, ayant des relations, vont truster les autorisations, ne laissant à leurs confrères de province que le choix de vivoter en réimprimant les titres tombés dans le domaine public, ou alors ce que les Lyonnais vont faire, ce que les gens de Rouen vont faire également, ou alors tomber dans l'illégalité et contrefaire. Et à partir du... on peut dire... enfin, la contrefaçon commence à Lyon en réalité au début du XVIe siècle, où on commence à contrefaire les éditions d'Aldemanus, le Vénitien, mais on peut dire qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, tous nos imprimeurs libraires, qui sont de loyaux sujets, de bons pères de famille, de bons paroissiens et d'honnêtes commerçants, sont aussi des contrefacteurs. Tout le monde contrefait à Lyon.
Alors, dans quelle proportion, ça, je ne sais pas si on le sait exactement. Enfin, il me semblait que, par exemple, la moitié de la production d'un libraire, pratiquement, c'est des livres contrefaits.
En tout cas, on pense que la moitié des libraires lyonnais au XVIIe siècle contrefaisaient, tout à fait, avec une solidarité entre confrères, puisque tout le monde vivait un peu avec ce système. On savait que le confrère contrefaisait, on ne le dénonçait pas. Enfin bon, il y avait une solidarité. S'il y avait une inspection, il arrivait très souvent que les livres contrefaits soient cachés, dissimulés par un confrère. Une grande solidarité vis-à-vis du pouvoir central.
Et donc, ces livres sont donc, comme vous le disiez, cachés. Donc, ça peut être dans la famille, chez les voisins, dans l'atelier. Vous dites aussi qu'il y a un extraordinaire élargissement de l'atelier, puisque l'espace de l'imprimeur devient beaucoup plus ample. Et on cache aussi les livres dans les couvents. C'est aussi pour ça que nous trouvons ici, place des Jacobins.
En fait, le quartier des imprimeurs, stricto sensu, est limité par deux couvents, les Jacobins. Nous sommes ici, et puis à l'est, les Cordeliers, et le couvent des Jacobins, comme le couvent des Cordeliers, ont abrité des magasins secrets, c'est-à-dire que ces bâtiments louaient des espaces à des commerçants qui le souhaitaient pour y entreposer des marchandises, et évidemment, les libraires étaient parmi les premiers à utiliser ces emplacements. Donc on connaît des cas de très nombreuses visites et perquisitions. Ces perquisitions sont en général menées à l'initiative de libraires parisiens qui savent qu'ils sont contrefaits, donc qui viennent à Lyon, qui mettent en branle le système judiciaire, qui organisent des descentes dans les ateliers, des visites, jusqu'à ce qu'on trouve. Et évidemment, malgré tous les interdits successifs faits aux religieux d'abriter des magasins de librairie, ils vont le faire durant tout l'Ancien Régime. Et on a trace de saisies très importantes à la fin du XVIIe siècle, dans les années 1694, où on a trouvé des livres contrefaits jusque dans les caveaux,
dans les cercueils. Et en grosse quantité, puisqu'on dit qu'au Cordelier, c'est 15 000 ouvrages trouvés, et chez Jacobin, c'est entre 6 et 10 000. Donc c'était vraiment des stocks. Et alors, les libraires parisiens récupéraient ces ouvrages contrefaits et pouvaient les vendre à leur profit. Donc c'est vraiment la rivalité entre Paris et la province, ce monopole de Paris contre la province. C'est très clair.
Et donc, peu à peu, quand même, à la fin du XVIIIe siècle, ça s'atténue un petit peu, cette pratique de la contrefaçon, parce que la surveillance, elle fonctionne aussi d'une certaine manière. Comment ça se passe? Ils subissent de grosses pertes aussi, ces imprimeurs.
La répression a été très sévère au XVIIe siècle. Elle est allée en s'adoucissant au cours du XVIIIe siècle, pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Et on peut dire qu'après les années 1750... On laisse faire. Parce que finalement, quand on travaille sur les archives, on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes qui sont arrêtés et qui payent quelques amendes, qui passent quelques semaines dans les cachots et qui, 6 mois après, sont repris en contravention. Donc, ce qui se passe au XVIIIe siècle aussi, c'est que ces descentes de Parisiens deviennent de plus en plus impopulaires parce que ça ameute tout un quartier. Vous imaginez bien, quand la police fait une descente, tout le monde s'assemble. Donc, ça crée des scandales très importants. La population prend fait et cause pour le libraire perquisitionné. Et les autorités du temps se rendent très bien compte du problème économique qui est là derrière. C'est la même chose d'ailleurs pour le livre interdit, le livre philosophique prohibé. Il est interdit par la loi, mais tout le monde en veut, et on sait bien qu'il vaut mieux qu'il soit imprimé clandestinement par des Français et vendu par des Français plutôt que par des étrangers, ce qui nuirait à l'économie nationale.
Alors justement, et peut-être un peu rapidement, on pourrait évoquer les relations entre Lyon et Neuchâtel et la Suisse. Je pensais, vous avez la STN, donc la Société Typographique Neuchâteloise, nombre d'imprimeurs lyonnais vont travailler en collaboration justement avec
Alors la Société Typographique de Neuchâtel, étudiée par le professeur Robert Darnton de l'Université de Princeton, est une société d'imprimerie qui se crée en 1769, qui est tout près de la France, mais en territoire étranger, sous domination du roi de Prusse, qui est un souverain lointain. Et cette société va imprimer du livre philosophique, le terme étant à prendre avec beaucoup de guillemets, puisqu'il voisine aussi bien les très très grands auteurs que les Rousseau du Ruisseau, voire même des livres licencieux. Dès ses débuts, la société typographique de Neuchâtel va prendre contact avec les Lyonnais. Et un certain nombre d'imprimeurs et de libraires lyonnais vont travailler beaucoup avec elle. Et ce qu'il faut comprendre, ce que ne montre pas Robert Darnton, mais ce qu'on a mis en lumière ici depuis, c'est que Lyon est non seulement un client de la société typographique de Neuchâtel, mais également un fournisseur. La société typographique de Neuchâtel se fournit à Lyon en caractères, se fournit à Lyon en peau pour les reliures, en matériaux divers, en presse parfois, mais elle recycle et elle diffuse aussi une bonne partie de la production lyonnaise prohibée, qui est faite sous fausses adresses, évidemment. Les noms des Lyonnais n'apparaissent pas. Et des choses qui sont soi-disant publiées à Leipzig, à Amsterdam, à Londres ou ailleurs, mais qui sont faites ici, sont diffusées dans toute l'Europe par la société typographique de Neuchâtel, avec ses propres productions et puis avec d'autres productions européennes.
Donc avant de rejoindre le musée de l'imprimerie, avec vous, Alain Marchal, Yves-Jotin Morosier et Dominique Vary, la Révolution française provoque une rupture dans ce monde d'imprimeurs lyonnais. Dans quelle mesure?
Alors une rupture, oui et non. Une rupture dans la mesure où la Révolution française marque la fin des privilèges, et en particulier du privilège de librairie, donc la contrefaçon n'a plus de raison d'être. Donc tout ça disparaît à ce moment-là. Une rupture dans la mesure où arrivent à Lyon un certain nombre de gens de l'extérieur qui piaffaient d'impatience de s'implanter dans cette grande ville, mais qui ne le pouvaient pas du fait du nombre, du fait de la limitation du nombre des places. Donc on voit arriver des gens de Belley, de Montélimar, de Vienne, qui ouvrent des imprimeries ou des librairies. Comme la censure a disparu, ou en tout cas qu'elle disparaît entre 1789 et 1792, le nombre d'ateliers, le nombre de boutiques croît démesurément. Certains de ces ateliers ont une vie très très éphémère, mais finalement, à la fin de la période, qui à Lyon est marquée par le siège et par toutes les tueries auxquelles il a donné lieu, hein, les métiers de l'imprimerie ont payé un assez lourd tribut, un quart des maîtres a disparu dans l'affaire, mais finalement, au début du 19e siècle, ce sont les grandes familles d'Ancien Régime qui ont traversé l'épisode et qui vont reprendre le flambeau.
Alain Marchal, là nous sommes au musée de l'imprimerie de Lyon, qui est logé dans un très beau bâtiment.
C'est l'hôtel de la Couronne, un bâtiment du 15e siècle, qui est accessoirement au début du 17e siècle, de 1605 à 1655, le premier hôtel de ville fixe de la ville de Lyon.
Et donc Alain Marchal, alors dans ce musée, vous proposez plusieurs visions, plusieurs éléments, en tous les cas, de l'imprimerie. Ce musée renferme à la fois des manuscrits, des ouvrages qui vont du 15e au 21e siècle, des outils, de la typographie. Enfin, vous allez m'expliquer un petit peu, quelle collection.
Les manuscrits se font plutôt rares. C'est un musée de l'imprimerie, voire même très rare. C'est un musée de l'imprimerie, un musée de l'imprimerie plomb. Quand le musée a été créé, c'était début des années 60, c'était un moment très particulier dans l'histoire des industries graphiques. C'était le moment où l'électronique, l'informatique, même à certains égards la photographie, se pointaient le nez tout le monde dans le métier savait que ça allait changer, et beaucoup, et profondément, mais personne ne savait trop comment ça allait changer. Maurice Audin, en tant qu'imprimeur professionnel, il a monté le musée dans ses heures libres, en quelque sorte. Il savait tout ça. Donc, très judicieusement, il a fait en sorte que le musée s'arrêtait avec la fin annoncée du plomb. Donc, c'est un musée qui va essentiellement jusqu'à la fin du 19e siècle, quand le système de Gutenberg, ou hérité de Gutenberg, atteint son apogée avec la mécanisation, mais toujours dans le domaine des techniques plomb.
Donc il y a certaines pièces très précieuses ici dans ce musée. Enfin bon, si on peut en citer juste quelques-unes, et puis après on parlera.
Le musée possède des collections très riches, aussi bien des livres, des estampes. Aussi, nous avons la chance d'avoir des matrices d'impression, donc des bois gravés, des grandes collections de bois gravés, de cuivre gravé, aussi des affiches, des imprimés, un peu de toutes sortes. Ce qui nous intéresse finalement, c'est que ce n'est pas l'imprimerie en tant que technique seulement, c'est intéressant certes, mais et ce n'est pas le livre simplement en tant que bel objet ou objet de savoir, mais c'est toute l'évolution, c'est l'articulation entre les formes et les usages de l'imprimé sous toutes ses formes, et aussi ses modes de production et de diffusion.
En tous les cas, peut-être préciser que bon, Lyon, ville d'imprimerie, ville d'imprimeur, donc a son musée de l'imprimerie, a son école, je le disais tout à l'heure, puisque Dominique Varry, vous êtes professeur à l'ENSIB, qui forme donc les futurs bibliothécaires et conservateurs. À la bibliothèque municipale de Lyon, il y a un fonds, Yves-Joctor Morosier.
Rien qu'on sait que la production du XVIe siècle lyonnais, c'est 15 000 ouvrages, 15 000 éditions. On peut dire que nous en avons seulement 7 à 8 000, donc il nous reste beaucoup d'acquisitions à faire, mais l'ensemble du fonds ancien représente 450 000 ouvrages. Donc il y a une richesse, et une richesse en particulier lyonnaise, puisque les collections ont été constituées à Lyon depuis l'origine, puisque c'est la bibliothèque des Jésuites qui fait le fondement de notre bibliothèque. Donc on y retrouve énormément d'éditions lyonnaises, et c'est pour cela que les chercheurs viennent à Lyon.
Bon, ben merci à vous, Dominique Varry, merci, Alain Marchal, merci, Yves-Joctor Morosier, donc pour cette balade au cœur de Lyon, capitale de l'imprimerie. Merci.
Prise de son, Isabelle Limousin. Mixage, Pascal Baranzelli. Une émission proposée par Séverine Liattard, réalisée par Nathalie Trianda-Filides.
On dit que vous la voulez prendre, la femme qui a le cul tendre. Mais si vous la prenez, vous en serez cocu.
Cocu.
Mais si vous la prenez, vous en serez cocu. Vous en serez cocu. Et la France vient à dépendre, voire mais elle n'a que vendre, car elle a tout prêté jusqu'aux cocu, 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 cocu. N'en parlez plus, je veux l'entendre. Il vous faudra les reins étendre, et toujours des rebousses vécues.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 janvier 2007. We'll be right back.
j'aime.